On est à l'aise. Quand on est à la clairière des Indiens, on fait des réunions barbecue. C'est-à-dire que on vous met une demi-heure au soleil, on arrête, et on fait l'autre côté. Hein. On vous donne l'occasion de changer. Ça va? Si vous êtes trop au soleil, on vous donnera l'occasion. Et faites-moi signe hein, pour que je coupe en deux, parce que des fois, je suis pris dans l'affaire. Et j'oublie. Mais je vais essayer de penser à vous et à votre bien-être. Vous êtes bien installé? Confortable? Ah, on me demande si on me comprend jusqu'au bout. Je parle assez fort? Je tâcherai d'être distinct. Bon. On va demander à Dieu sa grâce. Ô Dieu, nous levons les yeux vers toi comme ton Fils le faisait autrefois, quand il nous est dit qu'ayant levé les yeux au ciel, il dit « Père, l'heure est venue, afin que ton Fils soit glorifié. » Nous te demandons que vraiment ton Fils, au milieu de nous, soit glorifié, et que nous puissions éprouver que c'est lui qui est là, et que c'est de sa présence qu'ensemble nous allons jouir dans la communion avec ton cœur de Père, et que nous allons savoir ce que c'est qu'avoir la vie du Père et du Fils par la puissance du Saint-Esprit dans notre propre vie, afin que nous puissions dire en réalité, c'est vrai, notre communion est avec le Père et son Fils, Jésus-Christ, dont nous invoquons le nom au milieu de nous. Ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux, pour que nous puissions voir les merveilles de ta loi. Nous te le demandons comme le psalmiste, et nous savons que tu peux toucher aussi notre intelligence, captiver nos pensées qui pourraient si souvent se disperser et nous donner une attention qui vienne de toi. Car nous pourrions être présents ici et tout ailleurs en esprit, mais nous nous souvenons que Lydie, la marchande de pourpre, qui venait de la ville de Thyatire, un jour qu'elle écoutait au bord d'une rivière l'apôtre Paul, il est dit que tu lui as rendu le cœur attentif pour qu'elle écoute les choses que ton apôtre disait. Qu'il en soit ainsi de nous. Nous nous attendons à toi pour toutes choses. Donne-nous la grâce pour parler, donne-nous la grâce pour recevoir, et que tous ensemble, nous soyons bénis de ta bénédiction, d'une bénédiction profonde qui dure non seulement dans le camp, mais hors du camp, quand nous serons dans nos demeures, pour ta seule gloire. Amen. Bien voilà, mes amis, je ne vous ai pas dit de lire le chapitre 2 de Jacques pour préparer notre étude de ce matin, mais je pense que certains l'ont fait, c'est vrai? Oui. Mais nous allons quand même relire ce chapitre deuxième pour être pleinement assuré que vous allez suivre et comprendre et garder les enseignements de ce livre. Car c'est ainsi que l'Apocalypse s'ouvre en disant « Bienheureux celui qui lit. » Ben voilà notre premier point, nous allons lire. Bienheureux celui qui comprend, qui écoute. Parce que vous savez, c'est toute une affaire d'écouter. Hein. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. J'ai dit, on peut avoir une présence physique ici, et puis être tout ailleurs, préoccupé dans notre esprit. Alors il faut encore là qu'il y ait l'Esprit de Dieu et ça ne se fabrique pas, ça c'est lui, et qui est notre conscience, qu'il va vous donner de pouvoir écouter, et ça c'est encore une grâce, la grâce d'écouter. Donne-moi la grâce d'écouter, je suis tellement dispersé dans mes pensées. Hein? On peut le lui demander, il donne à tous, libéralement, et il ne fait pas de reproche, vous le connaissez maintenant ce verset. Et puis, il faudra encore demander, comme il est dit dans l'Apocalypse, non seulement de lire et d'écouter, mais de garder, de comprendre. Et de comprendre de telle façon qu'on mette en pratique. Parce que sans ça, alors, nous sommes simplement des auditeurs oubliés. Mais nous voulons vraiment ensemble nous mettre à l'œuvre. Et nous mettre à l'œuvre, ça ne sera pas faire des grandes choses, mais c'est être simplement disponible à ce que l'Esprit nous demande. Et il nous demande des fois des toutes petites choses, des très petites choses. Puis on est paresseux, ou on est fatigué, ou on est... Et puis, il suffirait de faire cette petite chose, et ce serait une grande œuvre de Dieu. C'est cela que vous devez comprendre. Une grande œuvre de Dieu qui aideront les âmes à s'approcher de lui, qui rendront, au fond, un amour qui s'attiédit pour le Seigneur, et bien qui le rallumeront. Nous demandons à l'Esprit de Dieu qu'il ranime la flamme de notre premier amour. Vous le connaissez, votre premier amour. Vous l'avez connu, vous en avez un souvenir. Eh bien, Seigneur, ranime la flamme de notre premier amour et que nous puissions regarder ce buisson ardent qui ne se consumait pas, mais où le feu de Dieu se trouvait. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Puis un exemple. Supposez, mettez-vous dans la peau, dans cette situation. Supposez, en effet, qu'il entre dans votre assemblée. Vous savez ce que ça veut dire? Dans votre nouvelle bâtisse, disons, pour les gens de la matière, et puis pour les autres, dans leur bâtissage. Vous avez une bâtisse. Bien, supposons, en effet, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or. Il y en a, hein, même au Québec, qui aiment bien montrer qu'ils ont un anneau. Oh, c'est peut-être un sot, j'ai pas à juger cet homme, non. Mais si vous le montrez comme ça, attention. Un anneau d'or et un habit magnifique. C'est pas nécessairement un vêtement de peau, comme on l'a vu hier soir. Mais enfin, un habit magnifique. Ça pourrait être supposé qu'une femme entre, avec un beau manteau de fourrure, dernier cri. Oh, mais c'est en hiver, alors. Mais on voit que c'est pas du toc. Et qu'il y entre un pauvre ou une pauvresse, misérablement vêtu. Alors, je ne sais pas si vous avez quelqu'un qui reçoit dans votre assemblée les nouveaux venus. Hein. Mettez-vous dans sa peau. Quelle sera votre réaction? Bien, si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, « Toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur, vous serez bien. » Une bonne chaise, sinon un bon fauteuil. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, au pied de mon marchepied. Assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Vous croyez que le Seigneur aurait agi de cette façon-là? Vous présentez le Seigneur à la porte de votre église, à la porte de votre assemblée, puis qu'est-ce que vous faites? Des distinctions. trouvez que c'est compliqué, la parole? C'est drôlement vivant, hein? N'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez, 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 écoutez mes frères bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde? Est-ce que c'est vrai qu'il a choisi les pauvres? Qui est-ce qui a reçu la première annonce que Jésus était né? Les bergers, vous chantez ça à Noël. Vous rappelez que ce sont des pauvres qui sont venus. Oui, mais c'est tous les jours qu'il faut se souvenir de cela. N'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en foi? Qu'est-ce que c'est que la foi? Ils ont vu un ange. Bon, ben ça c'est une affaire. Mais enfin, il y en a peut-être d'autres qui avaient vu des anges. Et puis, qu'est-ce que l'ange leur a dit? Allez à Bethléem. Je vous annonce un grand sujet de joie. Dans une nuit où ils avaient peut-être froid, un grand sujet de joie. Allez à Bethléem pour trouver un petit enfant emmailloté et couché dans une crèche, dans une mangeoire, c'est-à-dire dans une étable. Ça vaut la peine de se déplacer. La foi, je vous l'ai dit, c'est pas croire que Dieu existe, c'est pas croire que les anges existent. La foi, c'est croire une parole. C'est croire la parole que l'on a entendue. Et croire la parole se manifeste par une œuvre. Ils n'ont pas dit, oh ben nous croyons, mais c'est merveilleux. Et puis on va se coucher encore un moment. Auprès du feu, on va rallumer le feu. Puis on croit, il y a un grand sujet de joie à Bethléem. La foi produit une œuvre. La foi, elle fait marcher. Même s'il faut faire un bout pour aller jusqu'à Bethléem depuis le fameux champ des bergers. Alors, vous voyez, les pauvres peuvent être riches en foi. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que tu es riche en foi? Tu es peut-être riche en dons naturels. Tu as toute espèce de qualité. Tu es très riche, peut-être. Mais est-ce que tu es riche en foi? Vous savez, les disciples, ils n'étaient pas tous riches en foi. Vous en connaissez un qui n'était pas trop riche en foi? Thomas. Thomas, qui avait pourtant dit, il avait dit des bonnes choses. Quand Jésus décide de retourner à Jérusalem, en allant par Béthanie pour ressusciter Lazare, on lui dit, mais Seigneur, tu veux retourner en Judée alors que on voulait te tuer? Et puis pour finir, c'est Thomas qui dit, allons avec lui et mourons avec lui. Hein? On a des fois des bonnes pensées, des bonnes décisions. Et bien Thomas avait dit cela. Mais quand on lui a dit, tu sais, hein, le crucifié, nous l'avons vu, il est ressuscité, il nous a même visité. Si je ne mets pas mes doigts dans l'empreinte de ses clous, ne croirez pas. Il n'était pas riche en foi. Et nous, est-ce que nous sommes riches en foi? Nous qui savons toutes ces choses. Vous êtes riches de bien des choses. Peut-être pas d'argent, mais vous avez des richesses. Mais est-ce que vous êtes riche en foi? Est-ce que moi je suis riche en foi? C'est une question que je me pose. Et ça m'humilie. Il a choisi des gens pauvres. Alors réjouissez-vous. Vous êtes donc des choisis. Si vous sentez que vous êtes à zéro, c'est que le Seigneur va vous enrichir. Il va venir devant le zéro, ça fera 10. Et si vous êtes 2 zéros, il va venir devant les 2 zéros, ça fera 100. Et si vous êtes 6 zéros, il va venir devant les 6 zéros, puis ça fera 1 million. Voilà comment on s'enrichit. Donnez la première place au Seigneur et tous vos zéros, eh bien, ça fera une fortune, mais une fortune spirituelle. C'est dans la faiblesse que sa puissance peut s'accomplir. Et c'est ça qui est beau. Hein? Vous êtes riche en foi et héritier, il n'y a pas seulement la richesse actuelle, mais héritier
du royaume qu'il a promis à qui?
À ceux qu'il aime. Alors, mes amis, moi, j'ai vu que dans toute ma vie, il n'y avait qu'un problème, c'était de l'aimer. Un jour, 4 mois avant qu'il me reprenne ma première femme, la mère de mes enfants, la mère de Marie-Lise, le Seigneur m'a dit, « Ne t'occupe pas de ce qui va t'arriver, aime-moi. » Et ça m'a transpercé. Aime-moi. Toute chose travaille ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos. Donc, si tout travaille à mon bien, je n'ai plus qu'à l'aimer. Ton problème, c'est l'amour. Aime-moi. Personnellement. Et j'ai dit, oui, Seigneur. 2 mois après, quand ma femme m'a été enlevée en 2 minutes, un dimanche matin, sans préparation, elle est partie. Bon. Au culte du dimanche matin, où je devais agir aussi, un vieux frère aveugle s'est levé et a dit, quand j'ai su que Gaston avait perdu sa femme ce matin à 6 heures, je me suis jeté à genoux et j'ai dit, Seigneur, donne-moi une parole pour mon frère. Et il dit, même si ça vous fait l'effet d'une bombe, je vous dis ce qu'il m'a dit. Toute chose travaille, non pas concours, comme l'a dit Segond, parce que c'est pas un simple concours de circonstances, mais c'est travail, ça fait mal. C'est les douleurs de la femme enceinte qui est en travail. Littéralement, le mot grec, c'est les choses travaillent. On dit, oh, les choses, ça travaille pas. Et vous le savez, maintenant, on a découvert, hein, que il y a l'énergie dans la matière. Oui, toutes choses travaillent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand vous entendez qu'une parole que vous aviez entendue vous-même vous est redonnée par un vieillard aveugle depuis l'âge de 35 ans et qui a 90 ans, vous vous dites, Dieu est là. Alors, ne t'occupe pas de toi, occupe-toi de... Mais ne pense pas qu'est-ce qui va arriver à tes enfants, qu'est-ce que je ferai dans 5 ans ou je ne sais quoi. Va aujourd'hui, la minute présente. Et heureusement que j'étais dans ce culte, parce que ma première pensée, c'était de rester devant le lit mortuaire de ma femme, puis le Saint-Esprit me rappelle, mais c'est pas comme ça que tu dois faire. Abraham se leva de devant son mort. Ta place est au milieu de tes frères. Qu'est-ce que tu prêches aux autres? Que le ciel, c'est le lieu du repos. Où est ta femme Vanda? Elle loue le Seigneur. Qu'est-ce qu'elle voudrait pour toi? Que tu sois avec tes frères et non pas que tu pleures devant sa dépouille. C'est sa dépouille, elle n'est plus là. Elle est avec le Seigneur, puis elle ne voudrait pas venir vers toi, même si elle t'a aimé. Parce que le Seigneur était plus grand pour elle. Alors, il nous met à notre place. Ta place est au milieu de tes frères. Et tu descends vers tes frères. Et tu es disponible pour témoigner. Voilà que cet homme se lève, puis me rappelle cette parole. Voilà comment le Seigneur opère, agit. C'est plus la Bible, un livre dans lequel on trouve des paroles pour être réconforté à certains moments. Ça fait partie de votre vie. C'est fixé dans votre sensibilité. Alors, il y a un héritage. Vous êtes les héritiers du royaume, et ce royaume, il l'a promis à qui? À ceux qui l'aiment. Vous voyez, on pourrait reprendre depuis le commencement de la Bible tous les versets où il est parlé à ceux qui l'aiment. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil quand il sort dans sa force. Juges, chapitre 5, verset 31. Et puis, dans Ésaïe 64, il est dit, ce sont des choses que l'homme n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Et puis ici, on l'a lu hier, hein, que quand on a enduré l'épreuve, quand on a surmonté la tentation. Heureux l'homme, verset 12, qui supporte patiemment la tentation, parce qu'il y a la tentation. Je dis, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il te prend ta femme quand tu es en pleine convention chrétienne, il y a 1500 personnes qui attendent sur tes messages, et puis elle meurt là dans un pays où nous n'habitons pas, et ben c'est Dieu qui te frappe. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, parce qu'il y a une tentation de se laisser accabler par Satan qui te dit, tu vois, Dieu ne t'aime pas, ou bien encore pire, tu vois, toi, tu ne l'aimes pas assez. Et c'est pour cela que Dieu te châtie, parce qu'il ne veut pas que tu parles, parce que tu es un être indigne. Et puis le diable vient nous rappeler toutes nos fautes, tous nos manquements, tout ce que nous ne faisons pas comme lui voudrait, comme le Seigneur aurait voulu qu'on fasse. Et il est vraiment l'accusateur des frères. Et si vous ne savez pas cela, eh bien vous êtes troublés. Mais sachez que Satan vous accusera, et qu'il vous accusera justement dans les moments difficiles, hein, où il peut vraiment, quand vous êtes en train de couler, vous mettre la tête sous l'eau. C'est pas ce que fait le Seigneur. J'ai demandé au Seigneur qu'il me donne d'être tranquille ce matin, et que je ne tape pas du pied comme hier soir pour pas troubler mon frère et les messages. Alors, je lui demande de me garder aussi, hein. Mais après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Toujours ceux qu'il aime. C'est beau la parole, vous trouvez pas? Ça se répète. On dit, oh, ça se répète tellement. Puis vous les connaissez pas par cœur, ces versets? Si c'était tellement répété, ça serait déjà dans votre cœur. On a besoin qu'on nous répète les choses. C'est comme des enfants, on doit leur redire plusieurs fois les mêmes choses. Ceux qu'il aime. Alors, verset 6. Et vous, vous avilissez le pauvre. Hein. On revient à cette idée qu'il y a deux personnes qui sont entrées dans l'assemblée, il y en a un qui est riche et il y a l'autre qui est pauvre, puis on a fait une différence, hein, et puis on a mal jugé. On a dit aux riches, parce que si cette personne faisait partie de notre assemblée, hein, on lui enseignerait ensuite qu'il faut qu'elle donne la dîme. Et comme on a des frais, ça serait quand même pas mal d'avoir un riche dans l'assemblée. On a si souvent des pauvres qui sont même sur le bien-être social et qu'il faut aider. Alors, avoir quelques bons riches dans l'assemblée, eh bien, ça amènerait un peu d'argent et ça serait à la gloire de Dieu. Amen. N'est-ce pas? Et on dira encore Alléluia. Mais oui. Vous comprenez? Puis on s'exalte. Alors, il ne faut pas manquer notre coup. Pour une fois qu'il y a un riche, il faut qu'il se sente bien à l'aise. Comme on est différent du saint patron du Québec. Vous le connaissez? Jean-Baptiste. Qui disait, venez, chers amis de Jérusalem, vous les grands sadducéens et les pharisiens, les docteurs de la loi, venez, il y a des bonnes places ici. Puis vous, hein, le menu fretin, là, asseyez-vous sur le sable. C'est comme ça que Jean-Baptiste parlait? Race de vipère! Qui vous a averti, vous les gros de Jérusalem, de venir ici, de fuir la colère à venir? Mais c'est pour vider un auditoire, ça. Puis encore, on voit bien qu'il avait mangé des sauterelles. Mais c'est ça, mes amis. Comme on est loin de la simplicité des Écritures, c'est pas ennuyeux de lire la Bible. Mais laissons l'esprit nous montrer les choses. C'est des images qu'il nous donne. Vous avilissez le pauvre. Verset 6. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ben pourquoi? Parce que, justement, Jacques écrit aux Juifs convertis, mais qui sont dispersés parmi les nations. Alors, évidemment, ce sont des étrangers parmi les nations. Et ils n'ont pas un statut tout à fait
sûr. Et bien souvent, ils doivent prendre une occupation chez qui? Chez les riches, les nations qui veulent bien employer des juifs. C'est peut-être pas la même chose aujourd'hui, mais en tout cas, du temps de Jacques, les juifs convertis, et surtout les juifs chrétiens, n'étaient pas même bien vus de leurs compatriotes juifs. Et si un compatriote juif avait un grand territoire, un grand terrain, il exploitait son frère juif pauvre. Puisque les païens ne voulaient peut-être pas des juifs, déjà il y avait déjà de l'antisémitisme, alors les riches propriétaires terriens juifs employaient leurs coreligionnaires, mais ils les faisaient souffrir. Et alors, l'apôtre Jacques a écrit pour eux, pour leur consolation, et pour bien leur montrer, ne faites jamais souffrir les autres des choses dont vous avez souffert. Ça, c'est une des grandes leçons de ma vie. J'ai dû beaucoup souffrir, et je dois encore beaucoup souffrir, mais je demande toujours au Seigneur, donne-moi, puisque je dois souffrir de certaines choses, qu'un jour, je ne sois pas dans une telle situation que moi, je fasse souffrir les autres des choses dont j'ai souffert. Mais qu'au contraire, je puisse consoler ceux qui sont dans quelque affliction que ce soit, par la consolation dont j'ai été moi-même consolé par Dieu. C'est ça, la vraie leçon de l'épreuve. Il nous met dans des épreuves pour que nous soyons en situation de consoler les autres. Il y a tellement de gens qui sont dans l'épreuve. Et quand on n'y a pas passé, on ne peut pas comprendre. On est dur, on porte des jugements, même avec la Bible. On assomme les gens avec la Bible. On empêche les gens de croire avec la Bible. Parce qu'on veut les forcer, on veut les convaincre, mais d'une façon qui est purement charnelle. Alors vous voyez, l'apôtre Jacques, comme il nous enseigne, vous faites des différences, des distinctions. Et puis, vous donnez la part d'abord aux riches, c'est pas parce que Dieu n'aime pas les riches, nous allons en parler après. Mais attention, la richesse, ça peut nous rendre quoi? Orgueilleux. Figurez-vous, moi j'ai une meilleure auto que l'autre. Puis on est satisfait. Puis moi, c'est parce que je travaille, l'autre. Il est plutôt paresseux, puis on oublie que l'autre a été souvent malade. Puis qu'il aurait peut-être bien voulu travailler, mais qu'il n'a pas toujours pu. Alors, il n'a pas les mêmes moyens que nous. Alors, si vous avez plus, rendez grâce au Seigneur, et puis, dites-vous, bien, Dieu me donne pour que je puisse donner, car il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Dans quel évangile ça se trouve? Dans les actes, oui, c'est pas dans les évangiles. C'est une de ces paroles qu'on ne trouve pas dans les évangiles, parce que si on avait pu recueillir toutes les paroles de Jésus, elles ne sont pas toutes dans les évangiles, eh bien, le monde entier serait trop petit. Évidemment, c'est une hyperbole pour contenir tous les livres qui auraient été écrits. Alors, il y a des paroles de Jésus dans les actes. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, pouvoir faire un don. Tiens, le Seigneur même me permet de donner de mon superflu, puis peut-être pas seulement de mon superflu, mais aussi, j'ai pas tellement besoin de ça. Oh, peut-être que j'en aurai besoin demain, mais à chaque jour suffit sa peine. Demain sera en souci de lui-même, c'est aujourd'hui que cette personne a besoin. Eh bien, que je lui donne cela. Et demain, j'en aurai pas besoin. Je pourrais vous raconter des faits précis où je me suis trouvé dans cette situation où le Seigneur me disait, tu ne peux pas, si tu as lu Jacques, tu ne peux pas dire à cette personne qui est dans la peine, réchauffez-vous, mangez bien, etc. Puis il n'y avait rien dans l'armoire, il n'y avait pas de bois dans le chauffage, mais le Seigneur me disait, tu vas prier pour elle, mais ta prière, c'est toi qui vas l'exaucer. Je vais t'employer pour exaucer ta prière. Mais Seigneur, j'ai besoin de cet argent pour demain, pour mon train, pour partir ailleurs. Tu n'es pas à demain, tu es à aujourd'hui. Alors glisse ce billet sous son tricot pour qu'elle ne soit pas gênée. Puis tu pries, puis tu pars. Comme ça, elle ne sait pas. Elle prendra ça vraiment de la part du Seigneur. Puis le lendemain, au premier courrier, 5 fois plus que ce que j'avais mis sous le tricot. C'est notre Dieu. Mais je ne vous dis pas qu'en sortant de chez cette personne qui était malade, il n'y avait pas tous les petits roquets du diable qui étaient là en me disant, ben, qu'est-ce que tu vas faire demain? Et tu sais bien que ton père t'a enseigné qu'un chrétien ne devait pas avoir de dette, tu ne vas pas emprunter. Oui, mais j'ai mon père céleste.
Et mon Dieu sait, c'est pas Jésus qui a dit cela, il sait que vous avez besoin de toutes ces choses.
Mais est-ce qu'on croit cela? Et puis c'était souvent les riches qui amenaient ces pauvres devant les tribunaux. N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? C'est pourquoi on peut penser que c'était des propriétaires terriens juifs, mais qui ne croyaient pas à la divinité de Jésus. Ils employaient les juifs parce qu'ils étaient des frères de sang, mais ils les méprisaient à cause du nom de Jésus. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, et qu'est-ce que c'est la loi royale? Les 10 commandements? Non, c'est ce qui résume les 10 commandements, c'est quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de la moitié de ton cœur, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Un amour total, un amour complet. Je dis, mais moi je ne suis pas capable. C'est bien sûr que tu n'es pas capable, mais lui, il est capable de mettre cet amour dans ton cœur. Et puis, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que le vrai amour pour Dieu, c'est facile de dire qu'on aime Dieu de tout son cœur. Mais c'est pourquoi la loi royale, et il n'y a plus qu'un commandement maintenant, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand quelqu'un aime Dieu, il n'a pas besoin de le dire. On le voit dans l'amour qu'il a pour le prochain. Le test de l'amour pour Dieu, il se trouve dans l'amour que l'on a pour le prochain. Si vous n'aimez pas votre prochain, eh bien, c'est que la preuve que vous n'aimez pas Dieu de tout votre cœur. Parce que votre prochain, c'est Dieu qui l'a fait. Et votre prochain a tellement de prix aux yeux de Dieu que pour sauver votre prochain, Jésus-Christ est mort pour lui. Alors, ayez la vision que pour cet homme même qui est impossible avec vous, eh bien, cet homme-là, il a été l'objet de l'amour de Dieu. Et c'est par l'amour que vous aurez pour lui, le pardon que vous lui accordez, que le Seigneur peut le transformer. Le salut d'une âme est peut-être entre vos mains. C'est Dieu qui sauvera. Mais il est peut-être dans l'attitude que vous prendrez, non pas pour séduire quelqu'un, mais parce que vous aimez une âme précieuse. Et comme on le verra à la fin de ce livre, celui qui aura ramené une âme de l'égarement de son chemin, qu'il sache qu'il aura ramené une âme de la mort et qu'il couvrira une multitude de péchés. Alors, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Vous voyez comme c'est simple. Vous faites bien. Qu'est-ce que c'est faire le bien? Est-ce que je suis sûr de faire quelque chose de bien? Vous faites bien. C'est simple. Aime ton prochain. Tu fais bien. Vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Et puis vous voyez, on a vu comment vient le péché. Il y a d'abord la convoitise. Et quand on reçoit un riche, on convoite sa position, peut-être pas pour nous, mais pour notre communauté, pour notre église. Ça ferait du bien à notre église, un bon riche. Alors, on convoite. La convoitise ayant conçu, elle enfante le péché, ce qu'on a vu dans le chapitre précédent, et le péché étant consommé, ça produit la mort. Votre riche, qu'est-ce qui vous en fait voir, si seulement vous ne l'aviez pas rencontré? J'ai rien contre les riches. Mais quand nos directives ont été faussées par la position d'un homme, eh bien, il y a la catastrophe. Vous pouvez être sûr de cela. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est l'Écriture. Et ne dites pas que c'est mon enseignement, vous avez vous-même entre vos mains l'Épître de Jacques. Si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs, comme des gens qui transgressent une loi qui est pourtant bien connue, et nul n'est censé ignorer la loi. Car quiconque observe toute la loi, ça c'est grave, hein, mais pêche contre un seul commandement, alors là c'est tous les commandements, il devient coupable sur tous. Mais quand même, Seigneur, j'en ai fait 9 de commandements. Tu peux bien me laisser le 10e. Hein. Le 10e, qu'est-ce que c'est? C'est la convoitise. Hein. Le 10e, c'est tu ne convoiteras pas. Ça fait pas encore beaucoup de mal. Tu ne convoiteras pas. Oui, mais quand tu as déjà convoité une femme en la regardant d'une drôle de manière, eh bien, tu as déjà commis le péché dans ton cœur. Hein. Alors, faut que je m'en humilie. Parce que c'est pas tout de suite l'adultère. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point adultère, on pense toujours aux gros péchés qui sont visibles. Mais il a dit aussi tu ne tueras point. Alors ça, c'est encore un gros péché, hein, c'est le crime. Or, si tu ne commets point adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Mais nous nous disons, oh, nous n'en sommes pas là. Nos péchés, c'est des péchés mignons. Vous les connaissez, les péchés mignons? Je ne vais pas vous les énumérer. Hein. Mais encore l'autre jour, à Victoria, j'ai rencontré quelqu'un qui me parlait de son péché mignon. Ce péché mignon, il était drôlement gros, parce qu'en 1956, il m'avait déjà parlé de ce péché mignon. Puis il était encore dans son péché mignon. C'est des drôles de mignons. Alors, faisons attention à nos péchés mignons. J'aime beaucoup Thérèse d'Avila. Vous me direz, oui, mais c'était une catholique, oui, mais c'était une sainte femme. Elle a influencé ma jeunesse, c'est vrai. Elle disait que ce qui nous empêchait l'envol vers le ciel, la pleine vie spirituelle, c'était quoi? Un fil de soie. Un ballon, il peut encore être retenu par un fil de soie. Et c'est ça que vous ne voulez pas couper. Frères et sœurs, coupez votre fil de soie. C'est être un fil de soie. C'est ça? Et c'est ça qui vous empêche. Ce n'est pas des péchés grossiers, ce ne sont pas des lourdes chaînes. Un fil de soie qui vous empêche cet épanouissement spirituel que vous pourriez avoir au sein même des circonstances contraires et qui toucherait les cœurs, qui arriverait à les fondre. Seigneur, coupe le fil de soie. Que moi, je ne vais pas donner un nom à votre fil de soie, mais je voudrais que vous puissiez le couper. Ou que vous disiez au Seigneur, viens le couper. Parlez, verset 12, et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Vous voyez, on ne vous impose pas. La loi de la liberté, c'est l'évangile. Jésus est venu apporter la loi de la liberté, c'est l'amour. L'amour, ça ne se commande pas. L'amour, il est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors ouvrez vos cœurs et dites au Seigneur, ben, viens verser ton amour. Moi, je ne suis pas capable. Moi, je trouve trop souvent que dans nos réunions d'évangélisation, parce qu'on veut remplir les cœurs d'amour du Seigneur, on m'a donné 2 verres d'eau, ben, j'en bois un peu. Vous savez ce que c'est, ça? C'est pour amorcer la pompe. C'est ce que mon grand-père disait. En un peu d'eau dans la pompe, on l'amorçait, hein. Après, l'eau va venir. Alors, nos réunions d'évangélisation, souvent, on veut amorcer la pompe. Alors, on fait le nécessaire. Puis après, les vrais pompiers, hein. On arrose tout le monde. Il faut que tout le monde se convertisse sur l'heure. qui ont fait du travail superficiel. Puis après, ça ne tient pas. Puis après, il faut expliquer tous les déchets, tous ces gens qui sont venus, qui ne marchent plus. Et on explique ça par une nouvelle doctrine, une nouvelle qui est bien ancienne. Ils ont perdu leur salut. Et c'est la doctrine de la perte du salut qui prend dans bien des assemblées, dans des communautés, et qui trouble les âmes. Oh, ils étaient sauvés, ils ont fait profession, ils sont fait baptiser. Et on veut tout de suite baptiser les gens. Laissez-les vivre quand ils auront saisi ce que c'est que le baptême qui ne sauve pas, mais qui est un acte d'obéissance. Ils le comprendront eux-mêmes. Ils le feront eux-mêmes. Mais n'achalons pas les âmes. Le Seigneur n'est pas venu chercher les brebis, et puis une fois qu'il les a trouvées, paf, 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 il leur donnait des coups de pied au derrière pour qu'elles avancent. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il faisait? Vous connaissez un berger? Est-ce qu'il est derrière les brebis? Vous avez déjà vu un troupeau, hein? Le berger, il est devant. Et les brebis le suivent. Mais nous, berger spirituel, se réclamant du Seigneur, nous voulons pousser les brebis. Et les brebis ne sont pas des vaches. Moi, j'ai gardé des vaches, j'étais derrière, oui. Avec un fouet. Mais les brebis, ça ne se conduit pas comme des vaches. Il faut comprendre ces choses. La nature même ne vous enseigne-t-elle pas? Vous n'avez pas des yeux pour voir ces choses dans la nature. Jésus parlait des choses tout à fait naturelles, il était compris par le monde. Et on aimait venir l'écouter. C'était pas barbant ce que Jésus disait. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Cette loi de liberté, c'est l'Évangile. Car le jugement est sans miséricorde pour qui ne fait pas miséricorde. Et que j'aime ce verset, la miséricorde triomphe du jugement. C'est le verset qui m'a été donné pour un mariage samedi prochain. La miséricorde triomphe du jugement. Il y a le jugement, hein? Mais Dieu est plus que le jugement. Il peut faire miséricorde. C'est ça qui est merveilleux. Selon le jugement de Dieu, Rahab ne devait pas entrer dans la congrégation d'Israël, elle était une cananéenne. Selon le jugement de Dieu, Ruth, une moabite, ne devait pas entrer dans la congrégation d'Israël. Et pourtant, Rahab est sauvée, devient la femme d'un prince d'Israël, Salmon, et la mère de Boaz, qui lui-même épousera qui? Ruth, l'étrangère. Qui ne devait pas être sauvé, semble-t-il, et qui est sauvé par la miséricorde qui triomphe du jugement. Et Ruth se trouve parmi les quatre femmes que vous avez dans la généalogie de Jésus. Et Jésus qui dit que le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Et qui défend ses disciples contre ceux qui les accusaient parce qu'ils avaient, ayant faim, ils avaient pris un peu de blé en passant dans les champs et ils avaient frotté ses épis et ils avaient mangé du grain et on les accuse. Tes disciples, ils ont transgressé la loi. Vous voyez la paille qui est dans l'œil de votre frère, puis vous ne voyez pas la poutre qui obscurcit votre œil. Je suis le Seigneur du sabbat. Alors, souvenez-vous de ce verset, la miséricorde triomphe du jugement. Pas pour dire, je peux faire n'importe quoi, hein, mais pour les autres. Ayez de la compassion pour les autres. La colère n'accomplit pas la justice de Dieu, mais la miséricorde triomphe vis-à-vis du jugement. Alors, on est là à la moitié du chapitre.
Vous êtes confortable?
Mes frères, ça veut dire aussi mes sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? Parce que justement, on peut dire qu'on a la foi. C'est facile. Mais à quoi ça sert? Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, « Oh, vous êtes plein de bonnes intentions, plein de bonnes paroles, hein, comme le cher frère qui disait à l'homme aux jambes coupées, « Réjouissez-vous, vous aurez bientôt les jambes du ciel. » Alors, n'est-ce pas, vous êtes plein de bonnes intentions. Et alors vous êtes là dans une famille, ou peut-être, enfin, dans une circonstance, et vous voyez quelqu'un qui manque de nourriture, quelqu'un qui est nu, qui n'est pas vêtu, et vous lui dites, allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi ça sert-il? C'est logique. Vous avez eu de bonnes paroles. Des gens, quand on a fini un sermon, une prédication, qui dit, vous savez, vous avez bien parlé. J'ai bien parlé. Ils n'ont rien compris, donc. Parce que j'aime bien mieux les gens qui me disent, vous savez, hein, vous nous avez visés. Moi, je ne vous ai pas visé, je ne vous connais pas. Mais en fait, ce que vous avez dit, c'est moi. Alors, je me dis, heureusement, hein, la parole l'a touché. Mais j'ai pas de compliments pour moi. Ils sont furieux contre moi. Peut-être qu'ils changeront d'avis après. Mais ils croient qu'on est venu nous dire ce qu'il fallait dire à l'assemblée. J'ai en horreur les frères qui viennent des fois vers nous, ou les pasteurs qui nous disent, puisque vous êtes de passage, hein, vous pourriez pas leur dire ceci et ça. Mais je dis, mais si vous connaissez la situation, dites-le vous-même. Moi, je ne connais pas la situation. J'apporterai le message que Dieu m'a donné. Mais je ne veux connaître personne selon la chair. Parce que si je commence à connaître les circonstances, je suis bloqué. Je ne peux rien dire. Parce que justement, je ne dirai pas ces choses-là parce que je penserai que ces gens se croient visés. Or, moi, je ne veux pas viser les gens. Mais je veux qu'ils se sentent concernés par quelqu'un de plus puissant que moi qui a donné sa parole. C'est ça qui compte. Alors, leur dire simplement « Allez en paix, chauffez-vous » et que vous ne leur donniez pas le nécessaire, pour le corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Quand j'ai la foi, je dois avoir la foi aussi pour moi-même, et peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Seigneur nous montre après une prière, c'est par toi que je vais exaucer cette prière. C'est toi qui es concerné. Tu as la possibilité d'aider, tu as peut-être la possibilité d'intervenir, alors fais-le. Mais demain, Seigneur, mais demain, je suis ton maître, je suis ton guide, je ne vais pas te laisser. Les oiseaux n'ont pas de soucis, puis toi, tu es un drôle d'oiseau. Tu es en train de te faire du souci. Les oiseaux n'ont pas de soucis. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant leur Père Céleste les nourrit. Mais à nous de retrouver le vraiment évangélique qui est libre au jour le jour. À chaque jour suffit sa peine. Demain sera en souci de lui-même. Et il faut que cela s'incruste en nous. Sans ça, la foi, sans les œuvres, elle est morte. Verset 18. Quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Vous les avez déjà entendus? Toi, tu as la foi. Mais qu'est-ce que c'est avoir la foi? C'est pas croire que Dieu existe. C'est une obéissance, c'est croire ce qu'il nous dit, c'est être à l'écoute de ce qu'il nous dit. La foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. Voilà, le Seigneur me parle, j'écoute et j'agis. Je suis un contemplatif actif. Je contemple d'abord, j'écoute d'abord, puis il me donne l'agir. Ne voyez jamais un conflit entre la contemplation et l'action. Il y a là des gens de l'autre côté du lac, les pères de Saint-Benoît du lac, on dit que ce sont des contemplatifs. Mais en tout cas, c'est des gens qui prient. C'est des gens qui prient, et je sais qu'ils prient aussi pour nous. Eh bien, voilà, ça c'est leur mission. Mais nous pouvons être contemplatifs, c'est-à-dire avoir une vie personnelle avec le Seigneur, et agir. Mais pas agir, puis après, regretter. Si vous avez contemplé d'abord, vous ne regretterez jamais d'agir. Alors, que personne ne dise, moi j'ai la foi, puis toi tu as les œuvres. Parce que les vraies œuvres, parce que je ne crois pas au salut par les œuvres, c'est pas les œuvres qui nous sauvent, c'est la foi. Mais la foi qui nous sauve, la seule foi qui sauve, c'est une foi qui produit des œuvres. Une foi qui ne produit pas d'œuvres, ce n'est pas la foi. C'est une illusion. Vous croyez. Mais le diable aussi, il y croit. C'est ce que Jacques nous dit justement. Verset 19. Tu crois qu'il y a un Dieu, un seul Dieu, mais tu fais bien. Mais les démons croient aussi et tremblent. Donc quand on dit, mais moi j'ai la foi parce que je crois en Dieu, tu n'es pas plus avancé que le diable. Alors ça ne te sauve pas. Le diable est un très grand croyant. Il n'a jamais pris le temps de nier l'existence de Dieu. Il est trop fin pour ça. Toute la création nous montre qu'il y a quelqu'un, sinon quelque chose, il y a quelqu'un qui a fait toutes ces choses. On a souvent pris cet exemple. Vous voyez ma montre, si je vous dis, cette montre, elle s'est faite toute seule. C'est pas vrai, même Voltaire le disait, qu'on ne concevait pas une montre sans penser à l'horloger. Mon père était horloger, c'est pas lui qui a fait cette montre. Mais enfin, il y a eu des horlogers pour fabriquer des montres. Ça ne se fait pas tout seul. Dieu a ses instruments. Alors, dire qu'il y a un Dieu, mais ça ne m'avance pas beaucoup. Les bouddhistes aussi le croient. Les mahométans, les musulmans aussi. Alors, eh bien, montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par les œuvres. Vous voyez que ce n'est pas la foi qui est mise de côté. Je te montrerai la foi, mais par les œuvres. Évidemment, ce que Paul nous dit, que ce n'est pas les œuvres qui sauvent, mais que c'est la foi. Et qu'on est sauvé par la foi sans les œuvres dans ce sens-là. Dans le sens où Paul le dit et qui a été mal interprété. Pour Dieu qui voit les cœurs, il sait si c'est vraiment la foi. Il sait, lui, qui voit dans vos cœurs si vous avez la foi réelle. Mais moi, j'en suis pas toujours sûr, parce que vous pouvez faire une confession, vous pouvez vous lever, vous pouvez vous avancer, vous pouvez même vous mettre à genoux, vous pouvez même rendre un témoignage. Tout cela ne me rassure pas tellement encore, parce que il peut y avoir de l'excitation, il peut y avoir des émotions qui ont été touchées. Mais si c'est pas en profondeur, mes amis, je sais très bien que ça ne tiendra pas. Et c'est pourquoi le Seigneur me demande d'avoir une prédication et qui va au fond des choses. Et c'est Jésus qui a dit, il faut que, pour que le monde croie, qu'il voit vos œuvres. Le monde doit voir vos œuvres afin qu'il croie. Et ne pensez pas que parce qu'on fait maintenant des grandes réunions qui ressemblent aux meetings du monde, des festivals à n'en plus finir, avec de la musique comme on fait dans le monde, avec des musiciens qui étaient peut-être avant dans le monde, qui étaient peut-être des drogués, tout ce que vous voulez, mais qui se sont convertis, et puis voilà, alors, c'est très bien, je n'ai rien contre tout cela, mais je vous dis, il faut plus que cela, parce que on peut toucher les sentiments, c'est quelque chose de merveilleux. Nous louons Dieu pour toutes les âmes qu'il a sauvées, par tous les moyens, mais je veux toujours revenir à Jésus et aux moyens de Jésus, car il n'y en a pas d'autre, et c'est le contact personnel, c'est le 1 à 1, c'est votre vie quotidienne, des gens qui vous connaissent, de vos voisins qui vous voient, pas simplement aller à l'église. Un des nouveaux membres de l'Académie française, qui est un grand journaliste, qui a écrit plusieurs livres, en particulier « Dieu existe, je l'ai rencontré », c'est Frossard, André Frossard, qui a écrit aussi un livre sur le pape Jean-Paul II. Bien, il vient d'être nommé à l'Académie française. Oui, il a eu une conversion à l'âge de 20 ans. Et il m'écrivait un jour, parce que j'avais lu dans son livre qu'il vivait dans un patelin où son grand-père était juif, sa mère était catholique, et puis une autre personne dans sa famille était protestante. Et puis, dans ce village, il y avait une assemblée de frères chrétiens, pas de votre genre, plus serré que ça. Alors, moi, je faisais partie de ces assemblées-là. Et au début de mon ministère, j'avais été prêché, là, dans ce coin-là. Et puis, 10 ans plus tard, à l'âge de 30 ans, on m'a excommunié. Bon, alors, je dis ça en parenthèse, parce que j'étais fait pour prêcher à tous. Et j'avais correspondu avec Frossard, qui connaissait très bien cette assemblée, et qui m'écrivait, j'espère bien que le jour viendra où on ne fera plus ces excommunications-là. Mais il avait écrit dans son livre que ses frères chrétiens avaient mis un grand écriteau biblique pour annoncer leur salle évangélique. Réunion de prière à telle heure, et puis culte d'adoration à telle heure, et puis tout ça. Et puis ces chrétiens-là, le grand-père de Frossard disait, en affaire, ce sont des requins. Alors lui, le grand-père Frossard, vous savez ce qu'il a fait? Il a mis un écriteau dans son jardin où ses frères, quand ils allaient à la réunion de prière, passaient devant. Et ils devaient lire en lettres rouges, « Priez moins et ne volez plus. » Voler, pas avec des ailes, hein. Priez moins et ne volez plus. Vous savez qu'on nous regarde, hein? Alors vous voulez mettre de beaux écriteaux pour signaler votre présence et tout cela. D'accord, d'accord, d'accord. Mais ayez des vies qui recommandent votre bâtisse, si j'ose dire ainsi, votre assemblée. Bon, c'est peut-être la dernière fois qu'on a un temps ici. Ou que moi je suis dans un temps familialiste. Alors, parce que vous ne supporteriez plus. Mes amis, j'ai toujours essayé de parler comme si c'était la dernière fois. Moi je ne sais pas ce qui arrivera demain, mais je voudrais que vous ayez compris. Et que je n'ai pas besoin de le répéter. L'autre jour, il y avait une sœur catholique qui était à côté de moi à Québec. J'écoutais un prêtre parler, puis elle me disait, « Frère Gaston, c'est de votre faute. Écoutez ce qu'il dit. C'est de votre faute. » Il prêchait l'Évangile d'une façon admirable. Et j'étais tellement merveilleux, je me disais, je pourrais me convertir. Puis il avait été contacté justement par ses... quand j'étais à Ottawa avec lui, avec une 50aine d'autres prêtres. Alors, c'est quand même merveilleux de voir ce que Dieu peut faire. Vous me direz, oui, mais il n'est pas encore sorti. Sorti de quoi? Il faut bien qu'il en ait, là, pour qu'il dise la parole. Et moi, j'ai plus besoin d'y aller, si la parole est annoncée. S'il a maintenant le goût des Écritures, et s'il donne le goût des Écritures, les gens vont avancer. Et vous savez, Dieu n'oubliera aucun des siens. Il connaît ceux qui lui appartiennent dans tous les milieux.
et il les enlèvera. Ce qui compte, c'est pas d'avoir une étiquette religieuse. Ce qui compte, c'est d'appartenir au Seigneur. C'est d'avoir une relation vivante et personnelle avec le Seigneur. Et quand le Seigneur viendra, comme un aimant qui attire à lui tout ce qui est du même corps que lui, eh bien, il prendra à lui ce qui lui appartient. Maintenant, c'est le grand mélange. Je le disais, comment est-ce que je peux savoir? Vous dites que vous avez la foi, mais comment est-ce que je peux le savoir? Il est dit que Jésus ne croyait pas en ceux qui avaient cru en lui. Plusieurs crurent en lui à Jérusalem en voyant les miracles qu'il faisait. Plusieurs crurent en lui. Chapitre 2 de Jean. Mais il est dit, mais Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il savait ce qui était dans leur cœur, dans l'homme. Moi, je ne sais pas. Alors, vous pouvez dire que vous avez la foi. Mais pour qu'il y ait manifestation de la foi, il faut qu'il y ait des œuvres. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui a dit, on reconnaîtra l'arbre à ses fruits. Et le fruit, évident, c'est d'abord le fruit de l'esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la fidélité et la maîtrise de soi. Savoir être maître de soi. C'est ça le grand fruit. Le fruit de l'esprit, qui est l'ensemble de toutes les grâces qui donnent aux croyants une personnalité attrayante dans laquelle le monde reconnaît quelque chose de Christ. Et alors, il termine en disant, veux-tu savoir, ô homme 20, verset 20, que la foi sans les œuvres est inutile? C'est vrai. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Il a eu la foi qui l'a conduit à aller jusqu'à l'autel. Mais là, il allait accomplir une œuvre. Et Dieu l'arrête à ce moment-là, il dit, ça y est, hein, tu l'as fait, ça suffit. Alors, il est sauvé par la foi qui a produit une œuvre. C'est une œuvre d'obéissance. Il n'y a pas de, comme on vous l'a souvent peut-être dit, opposition entre Jacques et Paul, c'est pas vrai. Il faudra avoir du temps pour vous montrer l'enseignement de Paul, à côté l'enseignement de Jacques, à côté l'enseignement de Pierre, et à côté encore l'enseignement du sermon sur la montagne, et vous verrez qu'il y a une correspondance merveilleuse. Et puis on pourrait prendre aussi l'enseignement de la sagesse, l'enseignement des proverbes, parce que l'épître de Jacques est empreinte de cet enseignement des proverbes. Verset 22. Tu vois que la foi agissait avec les œuvres, donc quand notre père Abraham fut justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Mais qu'est-ce que le monde voudrait de voir une foi parfaite? Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Faut pas les séparer. Vous dites, on est sauvé par la grâce, par la foi. Avant, on nous enseignait que c'était les œuvres, les bonnes œuvres. C'est vrai qu'il y a eu cet enseignement dans l'Église romaine, mais ce n'est plus cet enseignement qui est donné, au moins chez ceux qui ont des conducteurs spirituels un peu corrects et qui sont revenus à la Bible. Et on a pu, puisque j'ai ici la Bible œcuménique, elle est aussi bien acceptée chez les catholiques que chez les protestants et chez les orthodoxes. Eh bien, c'est la même chose. C'est la foi qui sauve, mais la vraie foi se manifeste par des œuvres. On ne les sépare pas. Tandis que, bien souvent, eh bien, une fois que vous êtes sauvé, que vous avez saisi le salut par la foi, il n'y a plus d'œuvres. On est sauvé. Puis vous mettez les œuvres de côté. Mais c'est pas à les mettre de côté. Si c'était vos œuvres, oui, parce que ce seraient des œuvres mortes. Parce que vous êtes morts dans vos fautes et dans vos péchés. Mais si c'est les œuvres de la vie, les œuvres de la foi, elles sont nécessaires et le monde verra ces œuvres et sera attiré par les œuvres des chrétiens. Parce que pour croire, le monde veut voir. Et qu'est-ce qu'il veut voir? C'est nos vies transformé. Parce que sans ça, ils disent, qu'est-ce que ça change de se convertir? Qu'est-ce que ça change? C'est toujours le même. Mais c'est pas ça la conversion. Ainsi, verset 23, s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut
à Dieu ou cru Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous aimeriez avoir cette expression ? Vous pouvez être appelé ami de Dieu. Il veut vous appeler deux fois par vos noms. Ami de Dieu. Être en amitié avec Dieu, parce qu'on va voir après ce que c'est que l'amitié du monde, mais être en amitié avec Dieu. Puis il cite encore un autre exemple, Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le Seigneur a fait partir par un autre chemin, qui? Les mages. Il y a toujours des références. Les mages qui étaient venus adorer à Jérusalem et qui auraient dû aller rendre rapport à qui? À Hérode. Le Seigneur les fit partir par un autre chemin. Eh bien, ici, Rahab, elle les a fait partir par un autre chemin. Elle les a descendus d'abord par sa muraille et puis elle a été sauvée. La foi est ingénieuse. Comme le corps sans esprit est mort, et ça vous êtes d'accord, de même, la foi sans les œuvres est morte. Alors, les gens qui disent qu'ils ont la foi, puis qui n'ont pas d'œuvres, ce sont des morts. Que le Seigneur bénisse sa parole. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas trop rôti, mais c'était le soleil du Seigneur. Et puis maintenant, si vous êtes d'accord, on va faire comme hier soir. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette méthode qu'on a cru comprendre, que on vous donne la journée pour méditer encore sur chapitre 2? Peut-être que vous pouvez revenir même sur le chapitre 1er. Maintenant, il y en a, c'est plus complet, n'est-ce pas? Chapitre 1, chapitre 2. Et puis, ce soir, eh bien, on vous donnera l'occasion de dire quel est le verset, quel est le passage qui vous a touché particulièrement. C'est pas une méditation, une prédication que nous vous demandons de faire, mais de nous dire, ben, il y a cette parole-là qui m'a atteint, et puis, ou alors c'est une consolation que vous avez reçue, une exhortation, c'est une correction, tiens, jusqu'à présent, ben, je ne faisais pas une certaine nuance, et vous partagez cela, alors ça vous donne, n'est-ce pas, vous n'aurez pas une indigestion, vous nous donnez, moi aussi j'ai mangé ce que vous donnez. J'ai faim de vous entendre. J'ai soif de vous entendre. Parce que moi, je suis avec vous, avec cette parole. J'essaye de vous dire ce qu'elle me dit, mais je sais que le Seigneur, le Saint-Esprit, peut vous dire des choses plus merveilleuses à vous qu'il ne dit à moi, parce qu'il parle. Mais vous savez, à Abraham, il a parlé pendant... Tant qu'il était en communion avec lui, il lui parlait. Mais quand Abraham a commencé à dévier, pendant 13 ans, il n'y a plus parlé. Pourtant, il l'appelle ici « ami de Dieu ». Vous savez ce que c'est que quand Dieu s'occupe de vous. Mais c'était des épreuves. Et je vous l'ai dit, quand on est dans l'épreuve, on sent Dieu tout près de nous. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te bénir et te rendre grâce de nous donner encore cette belle journée et de nous avoir permis de nous nourrir, non pas seulement aux tables où nous servent nos sœurs bien-aimées qui préparent cette nourriture tellement nécessaire à notre corps pour que nous soyons fortifiés, mais ces forces que nous retrouvons en prenant la nourriture que tu nous accordes par grâce, nous voudrions les brûler pour toi, nous voudrions te servir, te glorifier et surtout assimiler ce que tu nous dis, parce que nous allons retourner loin d'ici. Nous ne serons plus à l'écart, nous serons dans notre contexte habituel. Et c'est là que tu vas montrer la puissance de ta parole. Même si aujourd'hui nous doutons peut-être encore, mais c'est là que nous verrons l'effet de cette parole. Qu'il y a des choses qui ne se feront plus comme avant. Et que le monde peut-être nous posera des questions. Nous qui voulons toujours évangéliser et poser des questions aux autres. Oh, si seulement nous comprenions que notre vie devrait poser des questions aux autres et que ce sont les autres qui devraient nous poser des questions.
et nous pourrions peut-être alors leur donner un traité qui répond à cette question. Que ta grâce nous visite, que tu nous remues, que tu nous bouleverses de fond en comble pour rebâtir sur des fondements solides et non pas sur les ruines de nos vies. Nous te le demandons ensemble, en te bénissant et en te louant parce que tu es capable de faire toutes choses nouvelles. Les choses vieilles sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles et toutes sont de Dieu en Jésus-Christ. Garde-nous et bénis-nous pour ta seule gloire. Amen.